Donc effectivement, je vais vous parler de... Alors ça va être moins physique, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ça va être plus et moins physique, si on peut dire. Mais je vais vous parler un peu de trous noirs, et puis de tout ce que... Donc les trous noirs, c'est lié à la gravitation, c'est lié à la théorie de la gravitation, la théorie d'Einstein, aussi bien la relativité terrestre que la relativité générale. Donc je vais essayer de vous parler d'un peu tout ça. Et là, on va commencer près de chez nous. On va commencer avec un hommage. Évidemment, Einstein est la figure tutélaire de ce domaine-là. Et là, vous avez... j'ai vraiment une vision perspective. Vous avez ici en haut le bureau d'Einstein, tel qu'il l'a laissé. Je pense que la photo a dû être prise un ou deux jours après sa mort. Vous pouvez essayer de repérer ce qu'il a écrit sur son tableau et puis peut-être essayer d'en faire quelque chose, je ne sais pas. Simplement pour dire qu'effectivement Einstein est un petit peu la grande figure au moins du siècle dernier dans ce domaine-là. Alors, on va commencer près de chez nous, si on peut dire, c'est-à-dire dans notre galaxie. Et il se passe des choses bizarres près de chez nous, au centre de notre galaxie. On observe une source très intense de rayonnement. Il y a toutes sortes de rayonnements qui apparaissent, qui nous viennent de ce centre galactique. Alors, c'est une source qu'on appelle Sagittarius A étoile, que vous avez au-dessus, et qui émet des rayonnements très énergétiques, des rayons X, des rayons gamma, etc. Et donc on se pose la question de l'origine de ce rayonnement très énergétique. Alors voilà un cliché à gauche. Je vais avoir du mal à pointer. Là. À gauche, en onde radio, alors vous retrouvez Sagittarius A étoile qui est au centre. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de phénomènes extrêmement complexes qui se produisent autour. Et je vais vous montrer un petit film à droite. Alors on avait quelques intuitions sur ce qui pourrait se passer au centre de cette galaxie. Et puisque je parle de trou noir, évidemment vous vous doutez qu'il va y avoir un trou noir au centre de la galaxie. Et qui dit trou noir dit concentration importante de masse dans un endroit très localisé. Et pour identifier de la masse, la meilleure façon, c'est la gravitation. Et donc, le cliché que vous avez au-dessus, c'est les taches blanches que vous voyez, ce sont les étoiles qui sont proches du centre galactique. La position exacte du centre galactique, c'est la croix rouge, qui est au milieu du cliché. Et ce que vous allez voir défiler, alors je vous préviens à l'avance parce que ça va aller vite, c'est année après année les positions de ces étoiles, donc qui évidemment sont soumises aux lois de l'attraction universelle, et donc les positions de ces étoiles autour du centre galactique année après année. Alors vous allez voir, ça va même au-delà de 2007, si je me rappelle bien ce cliché. Donc les derniers, c'est plus de la... comment dire, des prédictions qu'autre chose, mais donc regardez bien, ça va aller assez vite. Oui, ça va pas vite du tout. Voilà. Ah, vous voyez, je m'encule un petit peu pour vous indiquer. Donc, vous avez vu par exemple cette étoile-là, gravité tout autour, ici, et celle-ci, alors c'est le plus caractéristique, celle-ci a vraiment reparti complètement en sens inverse, et donc ça veut dire qu'ici il y a un objet extrêmement massif, donc toutes ces trajectoires-là ont des formes d'ellipse, et celle-ci a une forme d'ellipse extrêmement allongée, et l'objet autour duquel elle gravite est juste ici au centre galactique. Alors on a réussi à piquer celle-ci, ici, à des distances extrêmement proches du centre galactique, des distances qui sont de l'ordre de la distance entre le Soleil et Pluton. Alors, ça peut vous paraître des distances énormes, mais au niveau de la galaxie, c'est des toutes petites distances, c'est des distances de systèmes planétaires, donc c'est des toutes petites distances. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une concentration de masse qui est très localisée à des échelles galactiques, et il suffit d'utiliser la loi de l'attraction universelle pour identifier quelle est la masse de l'objet qui est au centre. Et cette masse, c'est 3 millions de fois la masse solaire. Donc, un objet très compact, puisque vous arrivez à passer très près, et de masse 3 millions de fois la masse solaire. On a essayé plusieurs tentatives d'interprétation, et la conclusion générale au niveau d'astrophysiciens, c'est que cet objet-là est un trou noir. de masse, 3 millions de fois la masse du Soleil. Donc vous voyez que ces trous noirs, ce n'est pas simplement des vues de l'esprit, ou c'est d'ailleurs un petit peu ce que croyait Einstein, que c'était des solutions un peu bizarres des équations qu'il avait écrites. Ce sont vraiment des objets astrophysiques et des objets autour duquel on peut graviter. Alors justement, je voudrais revenir un peu à cette notion-là. Donc pendant longtemps, on pensait que les trous noirs étaient simplement des singularités de l'espace-temps, prédites par la théorie de la relativité générale. Singularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un point de l'espace où toutes vos quantités deviennent infinies. Pendant longtemps, on a pensé que c'était plutôt une unité de la théorie, jusqu'à se rendre compte qu'il y a des objets astrophysiques qui correspondent à ça. Alors, vous vous posez probablement la question, généralement quand on parle de trou noir, presque tout le monde s'imagine que dans un trou noir, la définition du trou noir, c'est ce qui attire et ce qui fait tomber au centre aussi bien la matière, ça on est plutôt habitué quand on a un objet massif, c'est l'attraction universelle, mais même la lumière, et donc c'est pour ça que ça s'appelle un trou noir. Donc on a un peu l'idée que un trou noir, dans un trou noir, nécessairement vous allez tomber. Donc s'il y a un trou noir au centre de la galaxie, tout le monde va être englouti au fur et à mesure, c'est l'image traditionnelle. Alors c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai si vous êtes dans une région très proche de la singularité, c'est-à-dire du centre du trou noir, et si vous êtes à une distance donnée qu'on peut calculer d'après les lois de la relativité, qu'on appelle l'horizon. Donc il faut imaginer ici ce trou noir est entouré d'un horizon. Si vous pénétrez dans cette région-là, vous allez effectivement tomber au centre de la singularité. Mais si vous êtes au-delà de l'horizon, ben, vous pouvez graviter autour, et donc vous pouvez tout à fait passer ici. Ben, vous subissez la loi d'attraction universelle, vous êtes attiré par cette masse, mais vous êtes au-delà de l'horizon du trou noir, et donc vous en partez. Et les étoiles que vous avez vues, qu'elles ne sont pas absorbées par le trou noir, elles gravitent gentiment autour, et puis elles continueront à graviter pendant un certain temps. Par contre, vous allez avoir d'autres étoiles qui vont peut-être arriver comme ceci, et puis toc, elles pénètrent à l'intérieur de l'horizon, et à ce moment-là, c'est foutu, elles vont peut-être spiraler un peu, et puis elles vont tomber dans la singularité centrale. Alors, un petit exemple imagé, mais qui montre bien ce que c'est que la notion d'horizon, c'est l'exemple de la cascade. Je ne sais pas si vous avez déjà nagé dans une rivière, mais si vous avez nagé dans une rivière, vous n'êtes pas nécessairement préoccupé de savoir si, le long du cours d'eau, il y avait une cascade. Alors, la cascade, pour nous, ça va être le trou noir, la singularité centrale. Et puis, vous avez un nageur qui peut nager à 5, 10 km, 100 km de la cascade et qui se préoccupe assez peu de savoir s'il y a une cascade ou pas. Et puis, il y a un autre nageur qui va nager un peu trop près où le même nageur va se rapprocher. Et puis, à un certain moment, s'il ne fait pas attention, il va franchir une ligne qui est une ligne fictive, mais qui est ce que j'appelle l'horizon de la cascade, comme il y a l'horizon du trou noir. Une fois qu'il a franchi cette ligne, qui n'est pas marqué dans la rivière, enfin, ça, s'il n'a pas de chance, ce ne sera pas marqué, mais en tout cas, c'est une ligne fictive. Il peut être le meilleur nageur du monde, c'est fichu, il va tomber dans la cascade. Donc, c'est un petit peu ça, cette notion d'horizon. La force, là, est la force gravitationnelle. Vous me direz que dans la rivière aussi, la force est d'une certaine façon gravitationnelle aussi, mais il y a aussi la force du courant. Dès que le nageur a franchi cette ligne fictive, eh bien, il est attiré nécessairement vers la cascade. Donc, c'est un petit peu cette notion d'horizon, qui est une notion, c'est une limite d'une certaine façon fictive, mais par contre, une fois que vous avez franchi cet horizon, je reviens ici, une fois que vous avez franchi cette ligne d'horizon, peut-être même que vous n'êtes pas au courant, que vous êtes en train de la franchir, vous êtes fichu et vous ne pourrez plus jamais revenir à l'extérieur de l'horizon du trou noir. Donc vous ne pouvez entre autres pas aller raconter ce que vous avez vu, ce qui est bien dommage. Alors, voilà un exemple de cliché de trou noir, et ça va probablement vous surprendre. Donc ici, voilà au centre, ici, il y a un trou noir, ici, le cliché est agrandi, et vous voyez ici, donc le trou noir NGC 4261 est au centre. Alors, vous allez me dire, il n'est pas très noir, ce trou noir. Alors effectivement, ce n'est pas vraiment le trou noir qu'on voit. Ce sont tous les phénomènes qui se passent autour du trou noir. Et c'est comme ça qu'on identifie ces trous noirs. C'est non pas, évidemment, par la partie vraiment centrale, mais c'est plutôt par tous les phénomènes qui se produisent autour, des phénomènes gravitationnels. Vous avez de la matière qui tombe vers le trou noir, qui est attiré gravitationnellement. Et cette matière, en étant attirée, il va avoir des phénomènes électromagnétiques et donc de la lumière qui est émise. Et en fait, ce que vous voyez, c'est les effets dérivés, si je peux dire, plus que les dommages collatéraux qui se passent autour du trou noir. Et très, très souvent, autour de ces trous noirs, eh bien, vous avez deux phénomènes assez importants. Vous avez de la matière qui s'accrète autour du trou noir, ce qu'on appelle un disque d'accrétion, qui souvent a une forme vraiment de disque. Et vous avez un exemple ici, là-haut. Voilà, vous avez un tore de matière et puis au plus près, un disque d'accrétion. Donc vous avez la matière qui est accrétée autour du trou noir. Et puis vous avez aussi, de part et d'autre, dans des directions bien précises, vous les voyez très bien ici, des jets de particules très énergétiques. Alors, une des choses à comprendre, c'est pourquoi il se produit ces phénomènes, pourquoi il y a un disque qui s'accrète, pourquoi il y a des jets qui sont envoyés. On pense que c'est lié en partie à des phénomènes électromagnétiques. Hein, vous avez de la matière qui va tomber dans le trou noir. Bon, tout ça se recombine électromagnétiquement, et en même temps qu'il y en a qui tombent de façon centrale, il y a la matière qui est aussi éjectée. Donc c'est encore des choses qu'on comprend assez mal, mais qui sont souvent associées à la présence de trous noirs, et c'est pour ça qu'en fait on arrive à détecter les trous noirs, c'est à cause des phénomènes énergétiques qui se passent autour de ces trous noirs. Alors une petite simulation, c'est pas la réalité. Vous avez vu qu'au centre de notre galaxie, il y a un trou noir. Au centre de beaucoup de galaxies spirales, on pense que la plupart des galaxies spirales, il y a des trous noirs extrêmement massifs, de plusieurs millions de fois la masse solaire, comme je vous ai dit, au centre de la nôtre. Et voilà un petit peu le genre de phénomène qui se produisent. Alors, c'est une simulation, je ne suis pas allé voir. Voilà la galaxie spirale, on va très vite plonger dedans. Donc voilà, on plonge vers le centre, vers le trou noir central. Voilà, on va déjà être arrivé. Et vous voyez, il y a cet immense tore de matière autour, un disque d'accrétion, et vous voyez les jets ici. Et le trou noir, voilà l'horizon du trou noir ici, donc il se cache derrière tous ces phénomènes extrêmement complexes et très énergétiques. Donc on a de la chance parce que ces trous noirs qu'on ne devrait pas voir, en fait, on voit par tous les phénomènes extrêmement compliqués qui se produisent autour. Alors comment est-ce que les trous noirs se forment ? Alors les trous noirs qu'on observe, voilà, pour comprendre comment ils se forment, il faut savoir un petit peu un peu les quelques principes derrière les étoiles. On va prendre une étoile typique, notre Soleil est un bon exemple. Alors il y a deux phénomènes principaux qui agissent dans une étoile quand elle est dans une phase d'équilibre. À droite, vous avez des phénomènes gravitationnels. Vous savez que les forces gravitationnelles sont attractives, donc cette partie de l'étoile attire celle-ci. Et donc s'il n'y avait que des forces gravitationnelles, l'étoile s'écroulerait gravitationnellement, elle s'écroulerait sur elle-même. Alors qu'est-ce qui empêche qu'elle s'écroule, que le Soleil s'écroule sur lui-même ? Eh bien ce sont les réactions thermonucléaires, il y a des réactions très importantes au niveau des étoiles, et ces réactions-là vont engendrer de l'énergie. Vous savez que ça se fait vous avez des réactions nucléaires, d'avoir une production d'énergie. Donc il y a une production d'énergie, et cette énergie a tendance à dilater l'étoile. Et donc vous avez deux effets, un effet de dilatation, qui est dû à l'énergie produite par les réactions nucléaires, et puis vous avez un effet de contraction, qui est dû à l'attractivité des forces gravitationnelles. Et dans une étoile qui est dans une phase standard, comme notre Soleil, eh bien vous avez équilibre entre ces deux forces. Et donc la taille de l'étoile reste constante. Alors il y a un moment où le fuel nucléaire commence à être insuffisant, la production d'énergie commence à baisser, et à ce moment-là, ce sont les forces gravitationnelles qui l'emportent, et il y a à ce moment-là écroulement gravitationnel. Alors, parfois ça s'arrête, parfois ça ne s'arrête pas du tout, et ça va jusqu'à la formation d'un trou noir. Parfois c'est toute l'étoile qui tombe en trou noir, parfois c'est simplement le centre de l'étoile qui tombe en trou noir. Donc voilà un petit peu comment on pense que la plupart des trous noirs qui sont observés, au moins les trous noirs qui ont une masse de l'ordre de la masse du Soleil ou de la masse d'une étoile, c'est-à-dire quelques masses solaires, se sont formés. Les autres sont formés après par accrétion. On va voir des exemples où deux trous noirs rentrent en collision l'un dans l'autre et puis forment un plus gros trou noir, où les trous noirs vont commencer à absorber de la masse et vont devenir de plus en plus gros jusqu'au trou noir au centre des galaxies qui ont des masses de l'ordre de quelques millions de masses solaires. Alors, un exemple d'événement d'écroulement gravitationnel, c'est lié à ce qu'on appelle les sursauts gamma. Alors, les sursauts gamma, ce sont les événements les plus lumineux dans l'univers, et on pense que c'est lié à un écroulement gravitationnel. Alors, ils ont été découverts de façon un petit peu étonnante. Les Américains, ça doit être dans les années 60, envoyaient des satellites pour vérifier que les Soviétiques n'étaient pas en train pour étudier les émissions gamma qui étaient produites par les explosions nucléaires soviétiques qui auraient été interdites par les traités. Alors, je ne sais pas s'ils ont observé des explosions nucléaires soviétiques, mais en tout cas, à leur grande surprise, ils ont aussi observé des événements, alors non pas en bas, sur le sol soviétique, mais au contraire en l'air, et des explosions violentes qui apparaissaient dans l'univers. L'histoire ne dit pas ce qu'ils en ont pensé, mais enfin, ils ont gardé la nouvelle quand même pendant une dizaine d'années. Alors, je ne sais pas s'ils pensaient que les Soviétiques étaient allés faire péter leurs bombes beaucoup plus loin, ou bien si ils ont pensé que les petits bonshommes verts connaissaient les bombes atomiques. En tout cas, ils ont gardé donc la nouvelle pendant une dizaine d'années avant de publier scientifiquement. Alors, je vous donne un exemple de sursaut gamma. Alors, vous avez... Ce que vous voyez ici, alors c'est une image qui se répète, hein, c'est pas un truc cyclique, c'est simplement pour qu'on la voit. Donc ici, vous avez une carte du ciel, et ce que vous voyez là au centre, alors c'est comme, c'est comme les cartes de la Terre, hein, c'est le genre de planisphère qui représente l'ensemble du ciel. Et ici, vous avez au centre quelque chose de très lumineux qui est simplement la Voie lactée, notre galaxie. Et voyez qu'ici est apparu quelque chose de presque aussi lumineux que l'ensemble de la galaxie qui a duré quelques secondes. Et c'est un sursaut gamma. Donc ça vous montre qu'un sursaut gamma, c'est extrêmement lumineux puisque c'est aussi lumineux que toute la galaxie. Et le flash dure simplement quelques secondes. Alors il est suivi après par une émission qui est plus dans le visible, qui va décroître au cours des heures, mais le flash de lumière visible que vous voyez ne dure que quelques secondes, et c'est ce qu'on appelle un sursaut gamma. Alors, à titre d'exemple, je vais vous montrer un petit peu quel est le modèle qui tente d'expliquer ces sursauts gamma. On a maintenant des satellites qui sont lancés pour observer ces sursauts gamma, et donc on commence à avoir une bonne connaissance depuis 2-3 ans de ces sursauts gamma. On avait du mal à comprendre. Alors, je vais vous montrer une petite simulation, mais je vais d'abord passer quelques clichés en revue, parce que vous allez voir, ça va vite, et pour que vous soyez prêts à voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on pense que ces sursauts gamma sont dus à l'écroulement gravitationnel, justement, d'une étoile massive, à la fin de son existence, c'est-à-dire quand, justement, elle va commencer à s'écrouler gravitationnellement. En fait, elle ne va pas s'écrouler tout en entier gravitationnellement. C'est son centre qui va s'écrouler gravitationnellement. Alors, imaginez, donc il n'y a plus de fluide nucléaire au centre, donc son centre s'écroule. Alors, en s'écroulant, il y a l'énergie gravitationnelle qui est relâchée, et donc il y a l'énergie qui est relâchée au centre. S'il y a l'énergie qui est relâchée au centre, évidemment, ça va dilater les couches externes. Donc, ce que vous allez voir dans la petite simulation, c'est que vous commencez à voir une étoile, et puis d'un seul coup, vous la voir grossir. Et puis quand vous allez plancher dans l'étoile, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que son centre est en train de s'écrouler gravitationnellement, ça relâche de l'énergie, et c'est cette énergie qui est responsable du fait que les couches externes sont en train de... Donc extérieurement, l'étoile a l'air d'augmenter, intérieurement, en fait, son centre est en train de s'écrouler. Alors son centre va s'écrouler de façon non symétrique, et c'est ça qui va être responsable de jets, un peu comme les jets que je vous ai montrés tout à l'heure, parce qu'il y a des phénomènes importants, de phénomènes magnétiques importants qui vont collimer des jets comme ça. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, ces jets, à ce moment-là, vont rattraper les couches externes qui sont en train toujours en expansion. Et c'est cette interaction entre le jet très énergétique et les couches externes qui vont produire ce flash de lumière, à condition que vous soyez dans la bonne direction, dans la direction du jet, bien sûr, puisque sinon, vous allez... il faut que ça vise la Terre. Donc ça ne veut pas dire que ces événements-là vont se produire souvent, et puis dans quelques cas, le jet est juste dans la direction de la Terre, et à ce moment-là, nous, on récupère un flash lumineux. Donc on pense expliquer comme ça pourquoi ce flash lumineux est très court. C'est parce que c'est juste au moment où le jet qui est issu de la formation du trou noir interagit avec les couches externes de l'étoile. Alors ça y est, je vous ai déjà raconté toute l'histoire. Je vais vous montrer la simulation. Alors ça fait un accélérateur cosmique, c'est cette production de trous noirs, parce que ça accélère les particules très violemment. Alors voilà, ça va aller vite. La simulation, donc voilà l'étoile. Pour l'instant, elle ne demande rien à la personne. Vous voyez qu'elle grossit, c'est pas qu'on se rapproche, elle grossit. Alors maintenant, on va plonger à l'intérieur. Vous avez ici la matière qui est en train de s'écrouler gravitationnellement, formation de jets. Et les jets vont aller rattraper les couches externes qui, elles, sont continuent à être en expansion. Voilà. Et voilà, là, il y a le flash de lumière, à condition qu'on soit dans la direction du jet. Alors là, ce n'est pas l'univers qui est en train de tourner, c'est simplement pour vous montrer que vous allez recevoir un flash de lumière si vous êtes dans la direction du jet, sinon ben, vous n'allez pas le voir. Donc voilà un modèle qui vous montre bien un petit peu comment l'association entre des phénomènes qui ont l'air très violents dans l'univers et la formation de trous noirs. Alors on va revenir à Einstein et je vais vous faire ici un petit peu un résumé de quelques notions de relativité restreinte d'abord, puis de relativité générale. Pour revenir à ce qui se passe autour des trous noirs. Alors Einstein aimait bien les exemples de trains parce qu'il avait travaillé sur pour les chemins de fer suisses. Et entre autres, donc c'est pour ça que je vais reprendre un exemple de train. Alors entre autres, une des bases de la relativité restreinte, c'est l'idée que toutes les lois de la physique sont identiques dans les référentiels en mouvement uniforme les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, quand vous avez deux référentiels, donc deux schémas de référence, si vous voulez, qui se déplacent l'un par rapport à l'autre à vitesse constante. Ce qu'on appelle les référentiels galiléens. Là, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans le train, qui a les réflexes rapides, et qui, ici, va mesurer... Alors, vous savez que la vitesse de la lumière est finie. Et donc, la lumière, par exemple, qui est émise par cette lampe et qui va se refléter sur le miroir, va couvrir une distance, le double de cette distance-là, en un certain temps T. Donc, rapport distance sur temps, c'est la vitesse de la lumière. Maintenant, on va regarder la même expérience, mais vue du point de vue de la vache qui est dans le pré et qui regarde passer le train. Donc, le train est là quand la lumière part de la lampe de poche. Mais la lumière arrive sur le miroir, le train s'est déplacé, donc le miroir il est là. Et quand la lumière revient sur la lampe de poche, le train s'est encore déplacé ici. Donc la vache qui a aussi des réflexes très rapides arrive à calculer, à mesurer le temps du trajet. Alors vous voyez tout de suite que pour la vache, la distance parcourue, c'est celle-ci, par la lumière. Donc, c'est ce que j'appelle distance trèfle. Le temps qu'elle a mesuré, c'est le temps trèfle qui est ici, c'est le temps que mesure son chronomètre. Et ça doit être aussi la vitesse de la lumière. Alors, vous savez que la vitesse de la lumière, ça caractérise les ondes, c'est la vitesse des ondes électromagnétiques. Et donc, si les expériences de physique doivent avoir la même... la même forme dans le train en mouvement et puis dans le pré, ça doit être la même vitesse de la lumière. Donc vous voyez tout de suite le problème, la conséquence de ce petit exemple, c'est que vous voyez là-dessus que la distance trèfle, elle est supérieure à la distance mesurée dans le train. Donc ça veut dire, pour que les deux soient égales à la vitesse de la lumière, que le temps trèfle est supérieur au temps, donc le temps mesuré par la vache est supérieur, donc l'horloge, le chronomètre de la vache, est supérieur au temps mesuré par l'expérimentateur dans le train. Alors ça a évidemment des conséquences très importantes. Ça veut dire que la même succession d'événements semble prendre moins de temps dans les référentiels en mouvement, ou si vous voulez, que les horloges en mouvement semblent aller plus lentement. Alors, c'est quelque chose qui a été vérifié expérimentalement, aussi étonnant que ça puisse paraître. heurtant nos sens usuels. Ça a été comment a été faite l'expérience? Ben, deux horloges ont été synchronisées. Puis il y en a une qui a été mise dans un B-52. Le B-52 a voyagé pendant 24 heures autour de la Terre. Il est revenu se poser et puis on a comparé les deux horloges et il y avait une différence entre les deux. Parce qu'il y a une des horloges qui avait été dans un référentiel en mouvement. Alors, ce n'était pas en mouvement uniforme, évidemment, par rapport à la première horloge, parce que, ne serait-ce que pour l'avion d'école, il y a intérêt à ce qu'il accélère. Donc, il y avait une accélération, mais en tenant compte de toutes ces corrections-là, on a trouvé un résultat qui était tout à fait en accord avec ce que la relativité restreinte prédisait, qui est une amélioration de ce que je viens de dire, et qui est liée au fait que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Alors voilà, c'était un cours rapide de relativité restreinte, donc on passe à la relativité générale. Et après l'exemple du train, on va passer à l'exemple de l'ascenseur. Alors voilà un petit dessin animé qui a, je crois, été fait au moment de l'année de la physique, donc où on célébrait le centenaire des papiers d'Einstein de 1905, c'était en 2005. Alors voilà, Einstein dans un ascenseur. Voilà, l'ascenseur, on a coupé le fil et donc il tombe en chute libre. Et donc à ce moment-là, Einstein dans l'ascenseur, vous le voyez ici, vous allez le voir découvrir ici, est comme s'il était en apesanteur. Et un des principes fondamentaux va être qu'on ne peut pas savoir si on est en état d'apesanteur. Vous voyez, c'est passé maintenant, il n'est plus dans l'ascenseur, il est dans un vaisseau orbital qui est en train d'orbiter autour de la Terre. Et en fait, l'idée d'Einstein, c'est qu'on ne peut pas faire la différence entre être dans un ascenseur en chute libre ou être dans dans une fusée qui orbite autour de la Terre. Alors, la fusée, d'un seul coup, s'est mise à accélérer. Vous avez vu les moteurs qui ont été mis. Et à ce moment-là, Einstein, qui est dans la fusée, est de nouveau plaqué au sol, comme s'il sentait une force de pesanteur. Ce n'est pas la force de pesanteur, c'est lié à l'accélération de la fusée. Et alors là, en fait, il est nouveau dans l'ascenseur et voilà. Bravo, monsieur Einstein. Alors, on va reprendre cet exemple-là. Imaginez que vous êtes dans un vaisseau spatial et qui est en train d'orbiter autour de la Terre. Alors, vous savez que quelque chose qui orbite, c'est en fait quelque chose qui est en chute libre, en fait. Simplement, au lieu d'être en chute libre comme l'ascenseur, ça tombe en permanence, mais avec une vitesse initiale, et donc ça continue à tourner autour de la Terre. Être en orbite, c'est passer son temps à tomber, en fait, d'une certaine façon. Donc vous êtes en apesanteur, parce que vous êtes orbité autour de la Terre, et vous avez deux balles dans les mains, et vous les lâchez. Elles vont rester là où elles sont, parce qu'elles sont aussi autant en apesanteur que vous. Maintenant, vous allumez les moteurs de la fusée et vous imprimez une accélération à la fusée, une accélération de 10 mètres par seconde carré, 1G. Et bien, à ce moment-là, les balles vont, à cause de l'accélération de la fusée, les balles vont avoir un mouvement vers le bas, exactement comme si elles tombaient. Et ce que vous dit Einstein, c'est qu'en fait, et il est riche en principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence, c'est que les observations que vous faites dans un référentiel d'accélération, comme celle-ci, sont en fait indistinguables de celles qui sont faites dans un champ de gravitation. C'est-à-dire que si vous avez fermé tous les hublots, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes dans un ascenseur avec... si vous êtes sur Terre avec les balles qui tombent simplement sous l'effet de la pesanteur, donc ça c'est le champ de gravitation, ou bien si vous êtes dans une fusée sans gravitation, mais avec une fusée qui subit une accélération de 1G. Vous ne pouvez pas faire la différence, donc ça veut dire, et ça c'est une idée tout à fait révolutionnaire, que en fait, un champ de gravitation et une accélération, vous ne pouvez pas faire la différence. C'est ça le principe d'équivalence. Et vous allez voir que ça a des conséquences tout à fait étonnantes. L'une, c'est par exemple sur le parcours que la trajectoire de la lumière. Alors imaginez que vous êtes là dans votre satellite qui est en mouvement uniforme, en l'absence de champ de pesanteur, et vous allez allumer une lampe de poche. Et puis vous êtes vous êtes sur des réflexes très rapides, donc vous voyez la lumière se propager en ligne droite. C'est bien connu, la lumière, ça se propage en ligne droite. Et puis maintenant, on va imprimer une accélération au satellite ou à la fusée. Alors, vous voyez ce qui se passe. Donc la lumière, elle a été mise ici, mais ensuite, donc elle se propage en ligne droite si c'était un mouvement uniforme, mais comme c'est un mouvement accéléré, ici, elle se retrouve décalée par rapport au satellite parce que le satellite, il allait un peu plus vite, et ainsi de suite. Vous convaincrez facilement qu'à ce moment-là, la lumière a une trajectoire courbe. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est simplement un effet parce que le truc bouge en même temps et donc il bouge avec une accélération. Alors d'accord, c'est peut-être un effet, mais si maintenant vous appliquez le principe d'équivalence d'Einstein, ça veut dire que si, à cause de cet effet d'accélération, vous observez un rayon lumineux qui est courbé par l'accélération, ça veut dire que dans un champ gravitationnel, vous allez avoir le même effet puisque vous ne pouvez pas distinguer entre ce qui est dû à la gravitation et ce qui est dû à l'accélération. Et donc, effectivement, la prédiction de la relativité générale, c'est que les rayons lumineux sont courbés dans un champ gravitationnel. Et l'exemple le plus classique, c'est quand les rayons lumineux frôlent le Soleil. Alors, c'est un effet très, très faible. Hein. Ne me faites pas dire que dans cette salle, parce que je pèse un certain poids, les rayons lumineux sont déviés autour de moi. Non, c'est un effet tout à fait négligeable à ce niveau-là, mais avec le Soleil qui est déjà commencé à être une grosse masse, les rayons lumineux, et on l'a mesuré expérimentalement, sont déviés. Les rayons lumineux qui passent très près du Soleil sont déviés et ne se propagent plus en ligne droite. Alors, vous voyez le rapport qu'il y a avec le trou noir. Le trou noir, la masse est tellement importante et tellement localisée que si vous passez assez près du trou noir, eh bien, la lumière aussi va être déviée. Et si vous passez encore plus près, c'est à l'intérieur de l'horizon, la lumière est tellement déviée qu'elle tombe dans le champ gravitationnel du trou noir et qu'elle tombe jusqu'à la singularité. Alors, pour comprendre un petit peu mieux ça et voir que comment on associe ça à la géométrie de l'espace-temps, imaginez que vous avez un matelas bien, bien horizontal et vous lancez une bille sur le matelas. La bille se propage en ligne droite. Maintenant, imaginez que vous mettez une grosse pierre. Alors, ça ressemble à un morceau de sucre là, mais c'est une grosse brique. Évidemment, ça va déformer le matelas. Et si vous lancez une bille et qu'elle ne passe pas loin de la brique, sa trajectoire va être courbée. La bille suit une géodésique, alors une géodésique du matelas. Donc elle se propage par le chemin le plus court, mais le chemin le plus court est courbé parce que la géométrie du matelas est un petit peu plus compliquée qu'une géométrie plane. Ben, c'est ce qu'on pense qui se passe dans l'espace-temps, alors, cette fois-ci qui conjugue à la fois l'espace et le temps. L'espace-temps est courbé par la présence de masse. Le Soleil, par sa présence, par sa masse, courbe l'espace-temps autour de lui et les rayons lumineux suivent les géodésiques, mais les géodésiques sont courbés à cause de la courbure imprimée par la masse du Soleil. Alors, dans le cas d'un trou noir, la courbure est encore plus importante et donc c'est pour ça qu'éventuellement la géodésique va terminer sur la singularité du trou noir. Alors, maintenant que vous savez assez de choses pour partir en mission vers un trou noir, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, je ne sais plus lequel c'est, mais enfin, vous devez savoir ça parce que vous avez votre mission, vous avez été ultra secrète, vous avez été fournie avant de partir. Et on va voir ce qui se passe, et on va voir des effets de distorsion du temps très importants quand vous arrivez près du trou noir. Alors, à gauche, donc pour la postérité, vous avez installé une caméra donc qui va vous filmer. Et évidemment, les signaux sont envoyés sur Terre. Donc, vous êtes dans un référentiel en mouvement par rapport à la Terre. Et donc, la façon de mesurer le temps n'est pas la même. Et d'autant plus que vous approchez d'un trou noir, donc il y a des très forts effets gravitationnels. Alors, à gauche, c'est les images telles que vous les voyez sur l'écran de contrôle de votre caméra. Donc ça, c'est ce qui est à gauche. À droite, c'est ce qu'ils reçoivent sur Terre. Et c'est juste avant de passer l'horizon du trou noir. Alors voilà, vous êtes dit qu'il faudrait peut-être faire un petit signe d'adieu, parce que vous n'allez pas revenir. Donc vous commencez, ici vous allez traverser l'horizon, donc vous êtes en train de lever la main et dire au revoir à toute la famille. Puis pour vous, là vous allez traverser la ligne de l'horizon, et il ne se passe pas vraiment grand-chose. Si vous avez dit que c'est une ligne fictive, alors ça dépend un petit peu du type de trou noir. Si c'est un trou noir très massif, il peut y avoir des effets secondaires, mais en gros, vous, c'est tout, vous continuez à dire au revoir, et puis maintenant plus personne ne vous voit parce que vous avez traversé l'horizon. Qu'est-ce qui se passe sur Terre, où on mesure le temps de façon différente? Il y a une dilatation de votre temps, il y a une dilatation du temps sur les écrans observés sur Terre. C'est-à-dire que, on vous voit lever le bras, mais le film a l'air de se ralentir sur Terre, parce qu'en fait, la mesure du temps... Alors évidemment, les événements, tous ces événements-là, et ça va peut-être continuer pendant plusieurs années, correspondent, c'est-à-dire à la dilatation de cette fraction de seconde qui est ici. Donc vous, on vous voit sur Terre, mais le mouvement se ralentit de plus en plus, et puis ça va peut-être durer des années. C'est pas qu'on est en train de vous voir derrière l'horizon. Non, on continue de voir, mais le film c'est beaucoup ralenti, et puis finalement ça commence à se brouiller parce que vous êtes en train de traverser l'horizon. Et puis une fois que vous avez traversé l'horizon, évidemment, il n'y a plus de. Mais voyez que la façon de mesurer le temps est complètement différente ici et là. Et c'est particulièrement net dans cet exemple-là parce qu'il y a des effets gravitationnels très forts près des trous noirs. Alors, de toute façon, vous ne reviendrez pas pour venir nous expliquer ce qui se passe derrière l'horizon du trou noir. Alors, un épilogue, avant d'en venir aux questions, c'est justement comment est-ce qu'on peut un petit peu voir plus en détail les trous noirs. Alors c'est en particulier quelque chose dans lequel je suis plus impliqué. Alors c'est les ondes gravitationnelles. On a vu que la masse va déformer l'espace-temps et courber l'espace-temps. Et vous voyez, imaginez qu'il y a une explosion ou quelque chose de très violent qui se passe, beaucoup d'énergie. Évidemment, ça va faire un petit peu comme si vous jetiez par exemple la brique sur le lit. Il y a des déformations qui vont se répercuter sur tout le matelas. Là, c'est la même chose dans certains cas, certains événements particulièrement violents, comme certains de ceux qu'on a vus, l'explosion de systèmes complexes, vont déformer l'espace-temps et la déformation va se propager. C'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles et c'est quelque chose qu'on recherche très activement de nos jours. Alors, c'est difficile à observer parce que c'est des effets très faibles, mais c'est... Donc vous voyez ici un exemple de ici... explosion qui peut apparaître et à ce moment-là l'énergie va se propager et cette énergie va déformer l'espace-temps un petit peu comme une onde à la surface de l'eau. Alors il y a un instrument qui alors il y a des instruments on utilise l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on a mesuré des distances, des variations de distance très faibles et donc on utilise des franges d'interférence, donc on utilise un interféromètre comme l'interféromètre de Michelson-Morley, vous connaissez peut-être. Entre autres, il y a un interféromètre qui a été construit par les Européens, les Français et les Italiens à côté de Pise, qui s'appelle Virgo, et puis il y a un interféromètre un peu du même genre qui a été construit aux États-Unis. Alors la limitation, c'est que sur Terre, c'est un petit peu difficile de mesurer des variations très faibles de distance, parce que il y a les ondes sismiques. Donc vous voyez, avec un interféromètre, vous avez des miroirs, etc. Mais est-ce que les miroirs, la distance entre les miroirs bouge parce qu'il y a des ondes sismiques ou parce qu'il y a une onde gravitationnelle qui passe? Donc c'est assez compliqué. Donc il y a une mission qui a été proposée, une idée qui était de dire on va faire ça dans l'espace. Et donc ça c'est la mission spatiale à laquelle je suis associé, qui s'appelle LISA, qui est une mission assez colossale parce que alors dans l'espace on a la place, donc il n'y a pas la peine de se retenir, on peut faire de l'interférométrie à grande distance, et dans le cadre de LISA en fait vous allez voir on a un triangle, donc on a trois satellites qui forment un triangle et on va mesurer les déformations de ce triangle puisqu'on a quand même la place à 5 millions de kilomètres de côté. Alors ça ne veut pas dire que c'est une structure, les trois satellites se déplacent indépendamment, mais on essaye de mesurer le plus précisément les variations de distance entre ces trois satellites. Alors, voilà la tête que ça a. Si ça veut bien démarrer. Ouais, ça démarre. Alors voilà, attendez, là ça se met en place. On appelle ça une constellation de satellites. Donc vous voyez, vous avez le Soleil ici, la Terre qui orbite autour du Soleil, l'ISA, ce sont ces trois satellites qui orbitent derrière la Terre. Il y a à peu près un angle de 20 degrés vu du Soleil entre la Terre et la constellation des trois satellites. Et les orbites sont tellement bien choisies que le triangle tourne comme ça, au fur et à mesure qu'il tourne autour du Soleil. Et donc, la distance entre deux satellites, c'est 5 millions de kilomètres. Donc, ça fait un triangle de 5, équilatéral de 5 millions de kilomètres de côté, et avec donc des faisceaux laser qui sont envoyés ici entre les deux, entre ces deux-là et entre ces deux-là, et qui on fait de l'interférométrie, et on mesure les distances, les variations de distance à quelques dizaines de picomètres. Un picomètre, c'est 10 moins 12 mètres. Vous imaginez que vous êtes en train, vous avez deux satellites à 5 millions de kilomètres et vous êtes en train de mesurer les variations de distance à 10 moins 12 mètres. Donc c'est un certain tour de force. Alors, c'est pas, alors tout le monde s'y est mis, c'est-à-dire que c'est une collaboration Agence Spatiale Européenne NASA. Il y a toutes sortes de complications, donc ce n'est pas encore pour demain. Vous avez le temps de devenir des physiciens ou des astrophysiciens parce que c'est pour 2018. La communauté internationale prépare ça de façon très active. Alors, entre autres, ça va étudier dans toutes ces formations de trous noirs, s'il y a des écroulements gravitationnels, eh bien, vous allez avoir formation d'ondes gravitationnelles, et ces ondes gravitationnelles, c'est un des objets d'étude. Alors, entre autres, peut-être l'événement le plus spectaculaire associé à l'ISA, c'est le suivant. J'ai démarré en disant, au centre de notre galaxie, au centre de toutes les galaxies spirales, on pense qu'il y a des trous noirs extrêmement massifs de quelques millions de kilomètres. Alors imaginez l'événement suivant, vous avez une galaxie qui se balade dans l'univers, une autre galaxie, les deux galaxies rentrent en collision. Vous allez voir une simulation de ça, c'est assez spectaculaire, vous l'avez vu, d'ailleurs c'est là où on se rejoint, vous l'avez vu tout à l'heure en fait avec les étoiles, vous retrouverez des choses que vous avez vues tout à l'heure. Donc ces deux galaxies rentrent en collision. Ces deux galaxies ont au centre un trou noir supermassif de, comme je disais, de plusieurs millions de fois la masse solaire. Ces trous noirs vont s'attraper gravitationnellement et vont commencer à tourner l'un autour de l'autre. Alors, au début, ils tournent lentement et puis bon, ils rencontrent beaucoup d'autres objets, beaucoup d'étoiles, donc leur vitesse va diminuer et en fait, ils vont se rapprocher. Et puis à un certain moment, donc ils continuent à tourner l'un autour de l'autre, ce mouvement-là se fait en engendrant des ondes gravitationnelles, parce que ça déforme l'espace-temps. Alors c'est à ce moment-là où l'ISA le récupère, si vous voulez, commence à observer des ondes gravitationnelles. Donc l'ISA va dire, bah, tiens, j'observe des ondes gravitationnelles, la forme de ces ondes gravitationnelles est telle que je pense que dans cette direction-là, il y a deux trous noirs supermassifs qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre. Puis ça va durer quelques mois. Et c'est étonnant que ça dure que quelques mois, parce que c'est des échelles astrophysiques, mais on a de la chance, ça dure quelques mois. Ça durerait 10 000 ans, on aurait du mal à attendre. Ça a duré quelques mois, et puis au bout de quelques mois, donc, ils perdent de l'énergie, donc la distance diminue, la période augmente, et puis il y a un moment où les deux trous noirs vont plonger l'un sur l'autre, leurs deux horizons vont se toucher, c'est ce qu'on appelle une coalescence de trous noirs, et ça a formé un seul trou noir dont la masse est à peu près la somme des masses des deux trous noirs. Et donc vous imaginez un peu la situation, on est en 2018, l'ISA a été lancée, alors on attend à peu près quelques événements par an de ce type-là, mais imaginez le premier événement, donc l'ISA lance une alerte à tous les télescopes du monde, ils ont repéré quelque part dans le ciel deux trous noirs supermassifs qui sont dans leur dernière phase, qu'on appelle la phase spiralante, et que tel jour, dans 6 mois, tel jour, à telle heure, les deux trous noirs vont rentrer en coalescence. Vous imaginez que tous les télescopes du monde, les télescopes assez puissants, vont se tourner dans cette direction-là, ce jour-là, à cette heure-là, pour voir s'ils peuvent observer quelque chose. Alors voilà une simulation, hein, attendez 2018. Donc voilà une simulation, voilà les deux galaxies, tous les points c'est des étoiles, donc vous voyez, ça vaut mieux pas être là, hein. Alors là, on a tout de suite fait un zoom, et voilà les trous noirs avec leur disque d'accrétion autour, vous voyez, qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre. Alors au début, comme je disais, ça s'accélère parce qu'il choque d'autres étoiles. Après, ils commencent à se rapprocher, ça s'accélère parce qu'ils perdent de l'énergie, donc la distance diminue et la période augmente. Et puis, il y a un moment, voilà, oui, ça y est, les deux trous noirs sont en train de coalescence. Et il y a encore un peu d'émissions d'ondes gravitationnelles, et puis voilà, et puis on n'a plus qu'une galaxie avec un trou noir central. Voilà, ben, j'ai terminé sur ce balai cosmique. Merci.